On doit l'appeler professeur, mais c'est un vrai faux professeur que notre professeur Lordon l'appelle professeur à cause de la consonance avec le professeur Choron. En fait, Frédéric Lordon n'est pas professeur, il est chercheur, il est économiste, il est chercheur au CNRS et il vient de publier un bouquin qui dans la collection Raison d'agir, qui s'intitule « Jusqu'à quand ?» pour en finir avec les crises financières, et l'émission de vendredi vous a comblé. Alors ça nous étonne un petit peu, parce que c'est quand même un peu aride, c'est quand même des questions pas toujours faciles d'ailleurs, et puis des réponses qui ne sont pas plus, mais ça vous a passionné tant ces jours-ci, ces temps-ci, il y a une demande d'explication, on veut comprendre comment fonctionne la finance, puisque la catastrophe est annoncé et qu'on est à la veille quand même de grandes difficultés, si toutefois on n'y est pas déjà. Le Bureau international du travail annonce une hausse de 20 millions de chômeurs et de 100 millions de travailleurs pauvres en raison de la crise d'ici à fin 2009. Et toujours le Bureau international du travail explique ou prévoit ce que seront les effets de cette crise sur les pays pauvres, sur les pays émergents, comme on dit hypocritement, ce sera la réduction des exportations pour ces pays, l'ajournement des investissements, bien évidemment, et l'assèchement des sources de crédit. Par exemple, en Chine, si il y a une baisse de croissance en dessous de 8%, en dessous de 8%, je pense que la croissance de la Chine actuellement est à deux chiffres, mais si elle parvenait en dessous de 8%, eh bien ce serait tout de suite le renvoi de 200 000 employés du bâtiment, ceux qu'on appelle les Mingong, eh bien ce serait 200 000 qui seraient renvoyés dans les zones rurales. C'est simplement des effets comme ça qui sont redoutés. Redoutés pas par tout le monde, parce que le groupe pétrolier Total vient d'annoncer un bénéfice de 11 milliards d'euros, bénéfice 11 milliards d'euros pour les 9 premiers mois de l'année, soit une hausse de 21%. Donc ça va pas mal pour tout le monde, et 11 milliards, c'est un tout petit peu plus que ce que notre président de la République vient de prêter généreusement aux banques. Alors il leur a prêté en toute confiance, sans contrepartie, sans nationalisation ni participation au capital des banques. Comme ça, on fait confiance entre amis. Alors si bien qu'aujourd'hui, bah, les entreprises, les PME et les particuliers qui ont besoin de financement, bien évidemment, sont très inquiets, parce que les banquiers sont pas très empressés de leur prêter de l'argent pour investir. Il y a toutes les chances du monde pour que ces 10 milliards aillent non pas à l'emploi, non pas au développement, mais à la spéculation. C'est possible, c'est redouté, et ça peut tout à fait se produire. Mais souvenez-vous de ce que disait notre président de la République, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était candidat. Il disait, il faut réconcilier la France avec l'argent, car l'argent, c'est la réussite. Voilà, on voit où on en est aujourd'hui. À cette auditrice qui demande le titre du livre au sujet des Juifs, sur l'histoire des Juifs, c'est Shlomo Sand, S-A-N-D, Shlomo Sand. Le livre s'intitule « Comment le peuple juif fut inventé ?» et il est édité chez Fayard. C'est toujours un livre qui a un grand, grand succès en Israël, qui est un objet de débat passionné dans ce pays. Et comme je l'avais indiqué à Shlomo Sand, je lui ai dit que je pense pas que ce livre aura beaucoup de succès en France, au moins qu'il sera beaucoup critiqué, ou on fera pas grand cas. Et ben c'est le cas. On n'a pas fait grand cas. Voilà. Et pourtant c'est un livre absolument passionnant. Je voulais dire aussi que ce qu'on a entendu tout à fait au début de l'émission, ça vous a pas échappé, c'était un hommage à Myriam Makeba qui vient de disparaître. C'était un enregistrement avec Harry Belafonte en 1965. Donc aujourd'hui, deuxième volet de cet entretien avec Frédéric Lordon. Entretien, c'est pas tout à fait un entretien, c'est ses réponses aux questions que je vous ai proposé de lui adresser, ce que vous avez fait avec enthousiasme la semaine dernière. Vous avez envoyé toute une série de questions il va essayer de répondre à certaines de ces questions d'ici à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, je suis Sylvie Copiance de l'association Salam à Calais. Je vous appelle pour lancer un appel concernant un charter qui est en train de se préparer pour l'Afghanistan avec 50 Afghans qui sont actuellement détenus au CRA, au centre de rétention administrative de Coquel, juste à côté de Calais. L'ambassadeur d'Afghanistan doit venir cet après-midi pour avoir des passeports et des visas concernant cette personne et les renvoyer vers l'Afghanistan. Un d'entre eux a essayé de se pendre hier et les autres ont commencé une grève de la faim ce matin. Toutes les informations que nous avons vont malheureusement dans le même sens, c'est-à-dire un retour vers l'Afghanistan, dans un pays où tout le monde sait que la violence et la guerre fait des ravages tous les jours, aussi bien au niveau des civils que des militaires. Voilà, alors je voulais passer un peu, c'est un peu un SOS, parce que ben, nous, au niveau de l'association, on essaie d'alerter le maximum de personnes, et on se sent terriblement impuissants. Donc si vous pouvez nous aider ou les aider, merci.
Bonjour à tous, c'est Alban. Juste ce petit message pour une fois, j'appelle jamais, mais là j'appelle. Je viens d'écouter cette émission du vendredi qui était absolument passionnante et j'imaginais quelqu'un qui irait voir un directeur de radio pour dire je voudrais faire une émission qui dure une heure de 15 à 16 avec un pseudo-professeur en peau de lapin, comme il le dit si bien. Et je vais vous bourrer le mou avec de l'économie pendant une heure, n'importe quel directeur de radio dirait « Oui, vous êtes gentil, je vais pousser du disque à la place, ça sera mieux. » Et ben là, on s'est régalé pendant une heure, on a tout pigé, on a pigé plus que ce qu'on pensait. C'est absolument génial. C'est absolument génial. C'est une réussite sûrement de plusieurs années de crédit, à force d'entendre des choses, quand je dis crédit, attention, hein, mais à force d'entendre des choses crédibles dans ton émission, voilà. On s'intéresse pendant une heure à un truc tout à fait improbable. Merci à toute l'équipe et puis à une prochaine. Bye.
Félicitations au professeur Lordon pour sa manière pédagogique de nous expliquer des choses qui, en général, nous paraissent compliquées parce que je pense qu'on essaye de les compliquer pour surtout que le petit peuple et les non-spécialistes ne puissent pas comprendre. Un grand merci au professeur Lordon. C'est René de Vannes.
Que vous soyez un investisseur expérimenté ou simple débutant, Peter Lynch peut vous aider à choisir les bonnes actions. Qui sait?
A 10 bagger may be right around the corner.
Il y a peut-être une bonne affaire qui vous attend quelque part.
Before you think about buying stocks,
avant de penser à jouer en bourse, il vous faut répondre à quelques questions simples.
Do you need to invest in stocks?
En avez-vous besoin?
What do you expect to get from them?
Qu'attendez-vous de cette opération?
How will you react to sudden price drops?
Comment réagiriez-vous si la bourse s'effondrait?
How much do you trust corporate America?
Avez-vous vraiment confiance dans le secteur privé américain?
Oui, bonjour, j'avais une question à poser au professeur Lordon.
Message pour le professeur Lordon.
Professeur Lordon, c'est une question à Frédéric Lordon.
Une question très simple.
C'est une question à Frédéric Lordon.
Alors, j'aimerais ça à monsieur Lordon.
Pour Frédéric Lordon.
Monsieur le professeur Lordon.
Alors, merci de m'éclairer sur ce mystère.
Il a la réponse. Oui, bonjour, c'est Valérie Delin.
Bonjour, c'est Pascal Dumont.
L'éclaireur, Frédéric Lordon. C'est Daniel Mermet, et là-bas, si j'y suis, avec Renaud Lambert. Jusqu'à quand pour en finir avec les crises financières, Frédéric Lordon vous répond.
Bonjour, une question pour Frédéric Lordon. Une question très simple. Qui crée l'argent? J'ai entendu dire que l'argent a été créé à la fois par l'État et à la fois par les banques. Si c'est le cas, j'aimerais savoir qui crée l'argent et dans quelle proportion. Merci.
Une question très simple qui disait. Hein. Alors, l'argent n'est pas créé par l'État, l'argent est créé par les banques et il est créé ex nihilo. Alors je sais que ça, c'est toujours un peu surprenant d'entendre ces choses-là parce qu'on s'imagine le banquier comme l'homme aux écus assis sur un tas d'or. C'est-à-dire, c'est le gars qui doit avoir préalablement accumulé des fortunes pour pouvoir ensuite les prêter. Dans son concept pur, l'activité du crédit n'a rien à voir avec ça. Le crédit est créé par écriture, c'est-à-dire ex nihilo. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de monnaie scripturaire. Alors, notre auditeur nous dit, c'est une question très simple. J'ai fait la réponse minimale. Parce que je vois bien, en fait, qu'il y a derrière cette question un débat qui est en train de monter en puissance dans, je ne sais pas comment il faut dire, dans la blogosphère de gauche, dans les milieux de gauche critique ou de réflexion radicale, et qui a pour support en particulier un petit film fait par un Canadien qui s'appelle Paul Grignon et qui s'intitule « Money as Debt », « L'argent comme dette ». Et alors, c'est un débat qui est absolument passionnant, qui soulève des enjeux fondamentaux. Je voudrais faire un amical salut à des personnes qui font vivre ce débat en France, qui sont André Jacolbeck et Étienne Chouard, qui sont des amis, que j'aime beaucoup et avec qui j'ai beaucoup de désaccords, et notamment sur cette question. Parce que ce qui est dit dans la vidéo en question, je sais que je ne veux pas me rendre populaire là, soulève un très grand nombre de problèmes très délicats. Donc très grand nombre et très délicat, ça veut dire qu'on ne peut pas en parler maintenant. Voilà, c'est clair. Je refuse de plonger dans ce débat, car il est d'une telle complexité qu'il faudrait lui consacrer, mais je sais pas, une des séances entières. Pour l'instant, moi, je me sens requis à 100% par la crise financière, donc qui n'est pas complètement étrangère à la question de la création de la monnaie, ça va sans dire, mais qui est un sujet un petit peu différent tout de même. Et même si on peut les connecter, je me mets en réserve de tous ces débats pour y entrer dans des bonnes conditions. Mais c'est pas maintenant. Alors j'en suis désolé, je ne peux que laisser les auditeurs sur cette impression coussi coussa, en disant que j'ai de grandes réserves vis-à-vis de toutes ces thèses. Et sans pouvoir dire lesquels. C'est un peu rageant, je le reconnais.
Ah, on est un peu déçus. Oui, on pensait sais. Que le professeur Lordon avait réponse à tout.
Et en 10 secondes.
On s'est dit, ça y est, on a trouvé notre Jack Italiano.
Oui. C'est Fredo a tout lu.
Jack Italiano. Qui sait tout sur tout le temps. Ben non. On est un petit peu déçus, donc on va quand même tenter, on va le garder encore jusqu'à 16h.
In this section called the
Une vision
view,
à long terme. Peter Lynch vous explique ici comment construire un portefeuille d'actions qui maximise les profits et minimise les risques. Il vous apprend quand acheter et vendre ou que faire quand le marché s'effondre. Il analyse le marché boursier aujourd'hui et vous explique tout ce qui a changé.
Bonsoir Daniel, j'ai une question pour le professeur Lordon. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est les bourses, leur histoire, qui les a créées, qui les dirige, est-ce que c'est les États, est-ce que c'est du privé, et surtout, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est envisageable de fermer ces bourses pendant un certain temps? Est-ce qu'on peut envisager de les fermer pour quelques mois, histoire de calmer un peu tout ça? Je sais pas, je me pose des questions. On ne sait pas trop, en fait, comment ça fonctionne là-dedans. Voilà, merci. C'était Cyril d'Ardèche. À bientôt. Ciao.
Alors, professeur Lordon, l'histoire de la bourse depuis la plus haute antiquité.
Oui. Ça, c'est une question qui est bonne et qu'on pose pas très souvent, finalement. Parce que les bourses, ça fait partie du paysage. Alors, c'est un slava de soi qu'on finit par omettre d'interroger. Qui crée les bourses? Réponse, les capitalistes. Et même plus précisément, les capitalistes financiers. Alors là, il y a une histoire qui est bien intéressante à raconter tout de même. Au commencement, était non pas le verbe, mais les transactions de gré à gré. Alors, comme leur nom l'indique, les transactions de gré à gré sont réalisées sur une base strictement bilatérale. L'agent A veut acheter un titre, l'agent B veut en vendre un, ils se rencontrent et ils font leur petite affaire dans leur coin. Alors, c'est des transactions de gré à gré, c'est très sympathique, c'est bien intéressant, mais ça a un inconvénient tout de même. L'inconvénient, c'est que si B a un problème et ne peut plus payer, alors A, qui voulait vendre et qui avait peut-être même besoin de vendre, se retrouve le bec dans l'eau et ne dispose plus des liquidités qu'il escomptait récupérer au terme de la transaction. Alors ça, c'est embêtant parce que ça va menacer sa propre capacité d'honorer ses engagements à son tour. De telle sorte que si A ne récupère pas l'argent qu'il escomptait, peut-être que lui-même va finir par mettre en défaut ou à mettre en difficulté un agent C et puis un agent D, etc. Et c'est ainsi que les défauts de paiement vont se propager en s'amplifiant le long des chaînes d'acheteurs-vendeurs. Alors, pour avoir vécu plusieurs crises financières aiguës, des crises de défaut en cascade liées à ces imperfections des transactions de gré à gré, les financiers ont réagi en inventant un truc qu'ils ont appelé la chambre de compensation. Alors, la chambre de compensation est une institution qui fait l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Et on peut même dire plus, c'est l'intermédiaire qui est l'acheteur de tous les vendeurs et le vendeur de tous les acheteurs. C'est-à-dire, si vous, Daniel Mermet, dans la gestion optimale et quotidienne de votre portefeuille d'actions, vous voulez acheter un titre, par exemple, vous allez vous adresser non pas à un Pékin, Renaud Lambert, par exemple, qui est à peu près aussi fortuné que vous, mais vous allez vous adresser à la bourse. Et voilà, je l'ai dit, les chambres de compensation, c'est des bourses. Donc vous achetez directement au marché plutôt que d'acheter à une personne privée que vous connaîtriez. Alors ça, c'est assez intéressant et c'est assez astucieux parce que du coup, Cet agent intermédiaire qui est la chambre de compensation calcule pour tous les opérateurs ce qu'on appelle des positions nettes. C'est-à-dire qu'on fait la différence de ce que chacun doit payer et de ce que chacun doit recevoir. Par exemple, un agent A, il doit acheter pour 100, donc il doit payer 100 à la chambre de compensation. Mais il devait également recevoir pour 90, mettons. Non pas de personne en particulier, mais de la chambre de compensation, toujours elle. Alors on fait la différence des deux et on en déduit que notre agent A, il n'est finalement débiteur qu'à hauteur de 100 moins 90 égale 10 vis-à-vis du marché financier dans son ensemble. Alors ça c'est bien parce que ces soldes nets, ces soldes compensés, ça fait des volumes moins importants de telle sorte que s'il y a un défaut, on peut passer cet accident un petit peu plus facilement parce que on trouvera bien une banque sympathique qui lui fera un petit crédit relais pour des sommes moins importantes que ça, etc., etc. Et ça permettra d'absorber les accidents. Eh bien, les bourses, c'est ça. C'est des chambres de compensation et ça a de bonnes propriétés stabilisatrices par rapport au système du gré à gré. Propriétés stabilisatrices sous le rapport de l'endiguement de ces défauts de paiement, parce que sinon pour le reste, je veux dire, les prix continuent de faire des sauts de carpe, donc ça reste un monde assez chaotique, mais au moins, mais pas pour ça. Et alors des bourses, il y en a pour tous les goûts. Ce qu'on appelle la bourse stricto sensu, c'est le marché des actions. Mais il y a également des bourses pour les produits dérivés de ceci, pour les produits dérivés de cela, etc., etc. Mais le point important, et c'est ça l'objet de la question de notre auditeur, le point important, c'est que la bourse sont des institutions privées. Ce sont des entreprises, les bourses, avec des actionnaires. Ce sont des entreprises cotées en bourse. Les bourses sont cotées en bourse. C'est marrant, cette histoire de serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas? Donc ça, c'est assez rigolo. Mais plus sérieusement, le truc vraiment important, c'est que les bourses qui sont les infrastructures matérielles et aussi réglementaires des marchés financiers, ces bourses sont entièrement dans la main d'institutions privées et comme telles souveraines. C'est la raison pour laquelle, si vous vous pointez auprès de Euronext ou du New York Stock Exchange avec un petit projet de re-réglementation, ces braves gens risquent de vous envoyer chez Plumeau, parce qu'on voit mal par quelle pentecôte et par quel soudain accès de générosité ils viendraient accepter des projets qui ont pour finalité avouée de durcir les conditions sous lesquelles elles opèrent, c'est-à-dire sous lesquelles elles font du business, du chiffre d'affaires, du profit, et puis à la fin des dividendes.
Oui, alors, celui qu'on va envoyer chez Plumeau, ceux qu'on va envoyer chez Plumeau, s'ils veulent faire de la régulation, de la réglementation, vous pensez à qui, par exemple, à notre gouvernement actuel qui dit il faut de la réglementation, il faut de la régulation.
Dans mon esprit, refonder le capitalisme, c'est moins de spéculation, moins de rente, et davantage de liberté d'entreprendre, et davantage de récompense de l'effort et du travail. Alors c'est un État plus actif dans l'économie, qui doit assumer ses responsabilités, qui doit entreprendre, qui doit investir. L'État doit se comporter comme force d'innovation et de progrès. Et si nous voulons sortir au plus vite de la crise, si nous voulons pouvoir profiter le mieux possible du rebond de la conjoncture mondiale, quand il se produira, et il se produira, il nous faut plus de souplesse, plus de réactivité, plus de capacité d'innovation. C'est tout le sens des réformes engagées.
C'est eux qui vont se faire envoyer chez Plumeau ?
Ah bah ça, c'est les candidats à Plumeau. Mais s'ils voulaient éviter la casse Plumeau, il y aurait une idée assez simple à leur suggérer et qui en fait a été évoquée par l'auditeur lui-même. C'est que, et qui suit directement de ce constat que les bourses sont des entreprises privées. À partir du moment où on soutient, on porte un projet de re-réglementation sérieuse, je veux dire qu'il ne soit pas qu'un théâtre d'ombre et une pure comédie, il suit de cela, à l'évidence, qu'il n'est pas concevable de procéder autrement qu'en reprenant le contrôle politique de ces infrastructures de marché. Et ceci n'a pas, il n'y a pas 36 solutions pour le faire. Ceci ne peut qu'en passer par une forme ou une autre de nationalisation. Le contrôle politique, ça passe par la nationalisation. Et cette nationalisation est entièrement justifiée à partir du moment où l'on considère que les structures de marché, finalement, ont un caractère de bien public. Il faut au moins avoir la main dessus pour être en mesure de nourrir, sans faire rire la terre entière, le premier projet de re-réglementation.
Chapter 1. The making of a stock picker. Chapter 2. The Wall Street oxymoron.
Michael takes a loan from a Midwestern SNL. He puts the money in a quick drying inkwell. Takes a loss, steps cross, walks to the corner store, pulls a knife, calls his wife, can't take it anymore. Look out, Joe, how far will it go? Take away the fire.
Chapter 3. Is this gambling or what?
Jerry Larry's in the attic, messing with the static. Junior's on the telephone, nothing problematic. Julie's selling D-bonds, her bill is turning over. John is building walls, manipulating a takeover. Look out, Joe, how far will it go? Take away the fire and let us the water flow. Get tough, get right, try to get some sleep at night. Try hard, get harder, love to win, live to fight. Own the town, love the best, don't share the treasure chest. If you cheat, get away, lead them down an alleyway. Look out, Joe, how far will it go?
Chapter 4, Passing the Mirror Test.
Look out, Joe, how far will it go? Take away the fire and let it go.
This is the end of Side 1A. On Side 1B, Peter Lynch explains how to research the fundamentals of a company so that you too can pick out the winners.
Bonjour, Yann du Loir-et-Cher. La bourse remonte. Plutôt qu'une crise économique, ne serait-ce plutôt une redéfinition des richesses au sein des puissantes sociétés ou banques ayant racheté ou détruites les plus petites ne pouvant résister? Et cette crise, n'était-ce pas un scénario dans un carton en attente? Au revoir.
Bonjour, c'est une question pour Frédéric Lordon. On sait que avant la crise, énormément d'entreprises ont licencié des gens pour contenter les investissements des actionnaires. Maintenant, après la crise, énormément d'entreprises licencient à cause de cette crise financière. Sans tomber dans la théorie du complot, est-ce que on pourrait penser que cette crise arrange les actionnaires? C'était Paul de Boulogne-Billancourt. Au revoir.
Alors oui, théorie du complot. Généralement, quand quelqu'un dit, c'est pas que je plie sous la théorie du complot, c'est quelqu'un qui quand même tombe un peu dans la théorie du complot.
Tombe un peu dedans. Bon, alors théorie du complot. Alors factuellement les deux questions qui sont posées reçoivent pour réponse non. C'est-à-dire, la première interprétation qui suggérerait, ou la deuxième, je me souviens plus, qui suggérerait que la crise donne une excellente opportunité aux entreprises pour licencier, moyennant quoi ça fait monter le cours des actions et du coup les actionnaires s'y retrouvent et c'était une gigantesque entreprise concertée de leur part. Non, cette interprétation, non, là vraiment n'est pas du tout défendable pour une raison extrêmement simple, c'est que la crise financière est d'une telle violence que les actionnaires sont les premiers à en faire les frais. Donc, je veux dire que qu'il y ait de ci, de là, des petits mouvements à la hausse chaque fois que sont annoncés des plans sociaux, n'enlève rien au fait que, dans l'ensemble, les actionnaires connaissent un bain de sang. Donc, ils sont en train de perdre leur culotte, c'est monumental.
Hein, mais quand ArcelorMittal annonce un plan social, le cours d'ArcelorMittal monte immédiatement. Les actionnaires dansent,
mais pas longtemps, quoi. Ils dansent pas longtemps parce que c'est un feu de paille à l'intérieur d'un contexte d'entrée en récession de toute l'économie et dont les entreprises, grandes et petites, vont sortir salement amochées. Donc, qu'il y ait des petits pics comme ça de la bourse, des espèces de petites rémissions à la faveur de l'annonce d'un plan social, d'un dégraissage, de tout ce que vous voulez, sans doute, hein, parce que ça, alors on se défait pas comme ça de ses bonnes habitudes. Mais la tendance générale est quand même au bouillon pour les actionnaires. Et alors la deuxième question suggérait en gros un mécanisme de redistribution des richesses entre puissances. Alors il y aurait plusieurs façons d'envisager ce processus de redistribution. Le premier, ce serait un processus de redistribution international, c'est-à-dire l'idée que par système financier naufragé interposé, les États-Unis vont s'enfoncer dans une dynamique de déclin. Tout Obama que soit le nouveau président, hein, je veux dire, on allume les pétards et on sort les serpentins, mais très honnêtement, il y a pas de quoi en faire un fromage. Hein. Je vois pas que ce pauvre Obama puisse grand chose, surtout lorsqu'on voit les conseillers dont il est entouré à des forces qui sont beaucoup plus puissantes que lui. Mais enfin, sait-on jamais, accordons-lui le bénéfice du doute. Donc oui, c'est vrai, les États-Unis, là, l'hégémonie états-unienne est arrivée en haut de la colline, et là, ça va dégringoler maintenant. Et puis, il va y avoir une puissance hégémonique alternative qui va émerger, et suivez mon regard, on voit à peu près laquelle c'est. Maintenant, dans la redéfinition des richesses dont parlait l'auditeur, on peut aussi envisager tout ce gigantesque mécano qui est en train de s'opérer à l'intérieur du secteur bancaire, qui est un mécano violemment darwinien, hein, où les malempoints sont bouffés par par d'autres qui sont un peu moins bancales, etc., etc. Mais en aucun cas, me semble-t-il, on peut voir ça sous l'espèce d'un scénario qui était en attente dans les cartons. Je veux dire, dans toutes les phases de crise, s'ouvrent des opportunités qui sont saisies par ceux qui sont moins amochés que les autres. Et ça ne va pas plus loin. Alors, ils s'en saisissent avec un cynisme rigolard et avoué. Mais ça, c'est la guerre fraîche et joyeuse dans le capitalisme financiarisé, à la faveur de la conjoncture de crise telle qu'elle s'est créée. Alors, je voulais pas en terminer avec ces questions sans avoir dit un mot plus généralement de ces histoires de complot, de conspiration, etc. Parce que on sait à quel point toute critique du capitalisme est disqualifiée au motif qu'elle serait l'émanation d'une pensée conspirationniste. Et par contraposition, tous les braves gens qui nous opposent cette objection veulent donner à penser que le capitalisme est c'est une pure production endogène. Ça arrive par génération spontanée. C'est un truc qui est vierge de tout projet politique. Vous comprenez? Vraiment, jamais il y a eu la moindre intention maligne là derrière. Et il faut, avec les complots, se méfier de deux écueils symétriques. Le premier, c'est celui qui consiste à en voir partout, et le deuxième, c'est celui qui consiste à n'en voir nulle part. Je veux dire, oui, dans la vie sociale et politique, il y a des entreprises d'action concertées, ça existe, et il y a des gens qui pensent dans le capitalisme, et qui pensent avec des projets proprement politiques, des projets politiques de long terme. Et je vais vous en donner un exemple, à mon avis, alors là, qui va vous scier, parce que c'est une citation qu'on peut lire dans les mémoires de l'excellent Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale, la Banque centrale états-unienne, et qui dit avec une naïveté absolument désarmante la chose suivante. Je le cite. Je me rendais bien compte que l'assouplissement du crédit hypothécaire accroissait le risque financier. Parce que vous avez compris, Alan Greenspan, tout le monde est en train de lui tomber dessus comme la vérole sur le bas clergé, puisque c'est lui, après qu'il ait été encensé de toutes parts, maintenant c'est lui le coupable, le pelé, le galeux. Alors il se défend et il dit ceci. Mais j'ai compris aussi que l'augmentation du nombre de propriétaires renforçait le soutien au capitalisme de marché. J'estimais donc, et continue de le faire, que les avantages de cet élargissement de la propriété immobilière individuelle valaient bien l'accroissement inévitable des risques. La protection des droits de propriété, si essentielle dans une économie de marché, a besoin d'une masse critique de propriétaires pour bénéficier d'un soutien politique. Alors ça, c'est absolument extraordinaire, je trouve, hein, parce que on oppose à ceux qui défendent le projet de transformer radicalement les structures du capitalisme qu'ils sont d'indécrottables bolcheviques. Mais alors, à lire Alan Greenspan, le bolchevisme est la chose du monde la mieux partagée. Parce que si ça, c'est pas du projet politique, prendre le risque de la bulle des subprimes pour considérer la société de propriétaires en tant qu'elle est le soutien politique du capitalisme, alors je ne m'y connais pas. Mais moi, ça ne m'étonne pas trop parce que j'ai toujours pensé que les très grands libéraux étaient des très grands marxistes. Mais qui s'ignore ?
Oui, Alan Greenspan a fait des déclarations, je ne sais pas si c'est antérieur, si c'est de quand date cette citation, mais il a fait des déclarations toutes récentes au New York Times il y a quelques jours, où c'est une véritable confession, et il reconnaît qu'il s'est souvent trompé, et que ce qu'on appelle le néolibéralisme a bien des défauts, bien des failles, et qu'il s'est beaucoup trompé.
Et ça, c'est peut-être la différence.
Après avoir été l'oracle absolu, l'oracle planétaire absolu.
Mais bien sûr, d'abord encensé, puis mis plus bactère, et assez souvent par les mêmes. Et c'est bien la différence entre Alan Greenspan et ses accusateurs, d'une certaine manière. C'est qu'à la fin des fins, Greenspan a été capable de reconnaître ses erreurs. Et les moulins à vent qui disent A et le contraire de A, à 3 mois d'intervalle, au travers de cette crise financière, qui soutenaient la privatisation tous azimuts, et qui nous disent que la nationalisation est le salut, qui ont renversé du tout au tout leur avis sur Alan Greenspan, ces gens-là, eux, sont toujours accrochés à leur micro, et alors ça ne leur fait pas peur de se contredire à si peu d'intervalle.
La différence, c'est qu'Alan Greenspan, il est très âgé, qu'il a la liberté que confère le grand âge.
Ça doit être ça.
Chapter 16.
Chapitre 16.
Designing a portfolio.
construire son portefeuille.
Chapter 17.
Chapitre 17.
The best time to buy and sell.
Le meilleur moment pour acheter et pour vendre.
Chapter 18.
Chapitre 18.
The 12 silliest and most dangerous.
Les 12 idées reçues les plus bêtes et les plus dangereuses.
Things people say about stock prices.
Concernant le prix des actions.
Chapter 19.
Chapitre 19.
Options,
les options,
futures,
les futurs
and shorts.
Et la vente à découvert.
Mais il y a des principes de base qu'on ne devrait jamais oublier et sur lesquels tout notre système repose. Chanson du capitalisme. Si tu veux devenir grand homme, il te faut un gros citron. C'est le propre du grand homme de pressurer les petits citrons. Le citron du petit homme fait la joie du gros citron. C'est pourquoi le petit homme pleure et jacque comme un poltron. Bon Dieu, sois ferme, pas de pitié pour les faibles. Prétend faire des manières, ce n'est pas ton affaire, tu n'es pas son père. Mon Dieu, sois ferme, pas de pitié pour les faibles, pas de sentiment, mais lui un bon coup sur la gueule, oui un bon coup sur la gueule.
Monsieur Lordon, bonjour. Croyez-vous en la thèse de la baisse tendancielle du taux de profit ? La crise du capitalisme est-elle structurante et récurrente ? Faut-il réguler le capitalisme ou bien faut-il aller vers son dépassement ? Merci à tous. C'est Régis de Nîmes.
Alors, le dépassement du capitalisme.
Ouf, une toute petite question, évidemment, hein, que nous allons régler en 30 secondes, en deux coups de cuillère à peau, vous allez voir. Bon, je commence par la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Parce que, mine de rien, là, vous avez un auditeur qui fait une référence érudite à un résultat important de la théorie marxiste. Je dis en préalable tout de suite la chose suivante. Moi, je considère que la pensée de Marx offre des ressources intellectuelles indépassables pour penser le capitalisme. Ma formation intellectuelle s'est faite au contact des œuvres de Marx. Entre autres, je dis entre autres parce que je pense qu'il n'est jamais très sain de se confier en totalité à un seul auteur, si grand fut-il. Donc, l'économie politique de Marx a été pour moi une source d'inspiration et cependant, je peux dire que je n'achète pas tout. Et en particulier, je n'achète pas la loi à la baisse tendancielle du taux de profit. Je n'achète pas parce que je ne crois pas à l'hypothèse ou d'un déterminisme historique qui prendrait la forme écrasante de loi d'airain de l'histoire et particulièrement sous une forme aussi simple que la baisse tendancielle du taux de profit. Alors, j'ai beaucoup...
Mais c'est quoi la baisse tendancielle du taux de profit ?
La baisse tendancielle du taux de profit, c'est l'idée que le capitalisme a une tendance inévitable à verser dans la suraccumulation et à force d'empiler le capital, les machines, etc., il va détériorer son propre taux de rentabilité parce qu'il ne peut pas augmenter à l'infini ses débouchés. Par contre, des machines, il en met toujours plus et le taux de rendement du capital va finir par baisser tendanciellement. Je l'ai dit d'une manière qui est tellement grossière que j'ai un peu honte, mais je me ferai vertement remonter les bretelles par d'excellents collègues pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Je pense en particulier à Gérard Duménil et Dominique Lévy qui sont des marxistes, je dirais, de plus stricte obédience que moi, et qui, eux, maintiennent ce résultat de la baisse tendancielle du taux de profit, évidemment moyennant des aménagements pour prendre en compte ce qui s'est passé dans le siècle précédent. Hein, il y a eu des périodes notoires de remontée du taux de profit. Bon, alors ils ont des moyens intellectuels très astucieux de faire ça. Moi, ça ne me convainc pas complètement. Je pense que le capitalisme est une créature historique dont la capacité de réinvention et de métamorphose est hélas tout à fait impressionnante. Et que ça rend très difficile de prévoir de quelle manière il va se redéployer. Est-ce à dire pour autant que la bête est éternelle ? Évidemment pas. Je veux dire, mais comme tout produit de l'histoire, le capitalisme est à durée de vie finie. Alors évidemment, la question qui s'ensuit est toute pratique. S'il est à durée de vie finie, quand est la date de péremption ? Est-ce que c'est dans un siècle et demi ? ou est-ce que c'est en décembre 2008? Je dis décembre 2008 parce que on voit bien à la faveur de la crise financière que surgissent tout un tas d'analyses qui nous disent c'est la crise du capitalisme, on va sortir du capitalisme. J'aime autant le dire immédiatement, quitte à ne pas me rendre populaire, l'idée que nous vivrions la crise du capitalisme me semble parfaitement inepte, hélas. J'imagine que là, ça doit commencer à sacrément renauder dans les chaumières de là-bas si j'y suis, mais je veux dire, il faut pas tout confondre quand même. Hein. Et notamment, il faut savoir faire la distinction entre la réalité et son désir, quelque légitime qu'il soit, et ne pas tomber dans ce genre d'erreur qui consiste précisément à mélanger le désir et la réalité, à prendre son désir pour la réalité. De quoi vivons-nous la crise actuellement ? Alors, comme la question m'a déjà été posée, j'ai trouvé une espèce de métaphore à deux balles pour m'en tirer, qui est une métaphore cinématographique à base de travelling arrière. On prend l'objet, d'abord plan serré, après plan moyen, après plan large. Plan serré, c'est une crise de la finance. Ça, c'est tellement évident qu'on ne va pas y passer la nuit. On recule un peu. Plan moyen, est-ce que c'est la crise de la finance seulement ? Réponse, non. Alors, est-ce que c'est la crise du capitalisme ? Réponse, pas plus. Pourquoi ? C'est là qu'on entre dans le vrai débat. Il faut bien voir que ce que la réalité historique nous donne à voir, on va le dire plus simplement, ce dans quoi nous vivons, ça n'est pas le capitalisme. Le capitalisme, c'est un concept abstrait. Ce dans quoi nous vivons, c'est une réalisation historique particulière du capitalisme, c'est-à-dire une certaine configuration du capitalisme. En termes savants et pédants, on peut dire un régime d'accumulation du capital. Eh bien, que le capitalisme se présente sous la forme de régimes d'accumulation successifs. Ça, on peut en avoir l'idée très simplement. Il suffit de regarder les capitalismes qui se sont succédés au cours des siècles et leurs différences nous frappent immédiatement. Qu'y a-t-il de commun entre le capitalisme du début du XXe et le fordisme ? Pas grand-chose. Entre le fordisme et le capitalisme dans lequel on est depuis deux décennies ? Pas grand-chose. Alors on me dira, bah si, ça a en commun que c'est le capitalisme. Oui, mais en fait, c'est des réalisations différentes du capitalisme. Et ça frappe l'œil tout de même. Alors voilà, il y a des régimes d'accumulation, ils naissent, ils vivent et ils meurent. C'est-à-dire qu'ils connaissent des crises. Est-ce que ce sont des crises du capitalisme ? Des crises qui font sortir du capitalisme ?
Non, c'est une crise de cet avatar-là ou de cette métamorphose-là.
Voilà, ce sont des crises dans le capitalisme. À quoi succède une autre configuration du capitalisme, hélas. Et je crois malheureusement que dans le meilleur des cas, on en est là en ce moment. C'est-à-dire, la configuration, le régime d'accumulation vient de montrer ses limites. Ça, c'est absolument certain. C'est celle que j'ai indiquée tout à l'heure. C'est les limites du capitalisme de basse pression salariale. Donc, la crise de cette configuration, nous en avons le schéma sous les yeux. Ça ne veut pas dire qu'on en est sorti pour autant. Hein. On peut y rester encore un moment hein, avant que la crise ne soit complètement avérée. Alors, qu'est-ce qui suivra ? Est-ce qu'il suivra une autre configuration ? Hélas, oui. Mais alors, est-ce qu'on est pris là-dedans pour les siècles des siècles ? Amen.
Oui, je vous trouve très fatalitaire.
Mais voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas se raconter des histoires, c'est ça le truc. Donc la question, c'est comment on en sort du capitalisme ? Alors, on en sort à la faveur de l'intersection de deux choses, qui sont, un projet politique déjà suffisamment formulé, et deux, une conjoncture exceptionnelle. Mmh. Bon. La conjoncture exceptionnelle, ben, c'est celle dans laquelle le capitalisme détruit lui-même ses propres bases sociales, dans laquelle il violente tant de monde que le nombre des agents qui sont décidés à le soutenir parce qu'ils y trouvent un intérêt devient de plus en plus étroit. Bon. Et donc, je veux dire, quand le capitalisme en est à écœurer ses propres soutiens, là, on sent qu'il va se passer quelque chose.
On est là en ce moment.
Alors, je vais prendre le risque de me contredire parce que ses propres soutiens, c'est qui ? C'est-à-dire quand des cadres supérieurs commencent à trouver à redire à ce système. Quand des chefs d'entreprise eux-mêmes, des patrons de PME, disent que ça ne peut plus durer comme ça. Je voudrais parler du film de Gilles Perret, qui est quand même extraordinaire sous ce rapport, le film Ma mondialisation, qui montre des choses incroyables. Il montre des patrons de PME, bon, qui s'en sont foutus plein à gauche, mais qui souffrent mort et patient sous la férule des capitalistes financiers. Et vous en voyez un en particulier, qui n'est pas un chef d'entreprise, mais qui est un très haut cadre supérieur, qui est le directeur général, etc., et qui dit face caméra un truc comme « C'est vrai, le communisme, ça n'a pas marché, mais là, le capitalisme, ça ne peut plus durer. Il faudrait trouver un truc entre les deux. » Alors, quand on commence à arriver là, effectivement, c'est qu'il est en train de se passer des trucs. Mais alors, des gars comme lui, pour que la conjoncture exceptionnelle dont je parlais soit remplie, soit créée, il en faudrait énormément. Parce que les dominants, qui sont par construction les minoritaires, ont tous les moyens politiques et symboliques de se maintenir contre la majorité. Sauf si Ils deviennent... Il y a un moment, ils ne peuvent pas passer en dessous d'un certain seuil critique de minorité, parce que là, c'est fini. Le rapport de puissance ne peut plus être maintenu en leur faveur, et ça va tout leur péter à la gueule. Est-ce qu'on en est là? Je n'en sais rien. C'est une question pour politologue, ça. C'est pas une question pour économiste, vous comprenez? Donc, ça, c'est le travail des forces sociales, le travail des forces politiques, telles qu'elles se posent comme le relais d'affect de colère.
Mais ce que vous dites, c'est que si on veut véritablement un changement, si on veut dépasser le capitalisme, si on veut, par exemple, faire un nouveau parti anticapitaliste, etc., vous avez bien dit qu'il fallait un projet politique qui soit prêt, qui soit là, et la circonstance venant, l'événement se produisant, la situation surgissante, il faut que ce projet soit là. C'est comme ça que les ultralibéraux ont pris le pouvoir. Les néocons, par exemple, aux États-Unis ont pris le pouvoir. Ils avaient un projet prêt.
Exactement. Il faut que le projet soit prêt et que lorsque l'opportunité survient, on la chope. Alors, et quand je dis projet, je veux dire, c'est pas les 110 propositions du candidat Mitterrand, vous avez bien compris. Enfin, d'ailleurs, celles-là, on sait où elles nous ont menées. Non, un projet, c'est une idée de la direction générale que doit prendre la société. Et plus précisément, une idée de la façon...
Là, l'économiste est en train de faire de la politique, là, ça y est. Hein.
Ah, l'économiste, là, est passé du côté obscur. C'est tout à fait clair. Hein. C'est-à-dire, là, ami Jedi, bonjour. Hein. Donc, c'est une idée de la façon dont la société peut reconstruire ses rapports sociaux fondamentaux. Parce que finalement, le capitalisme, c'est pas autre chose. C'est des rapports sociaux fondamentaux. Et ça, Papa Marx nous l'avait dit de la manière la plus claire qui soit. Qu'est-ce que c'est le capitalisme? C'est trois grands rapports sociaux. C'est le rapport monétaire et marchand, c'est le rapport de propriété, et c'est le rapport salarial. Si l'on entend par sortie complète du capitalisme la subversion radicale de tous ces rapports, alors je dois dire, et notamment à propos du premier d'entre eux, le rapport monétaire et marchand, que moi, je n'arrive même pas à l'envisager. Je n'arrive pas à envisager qu'on puisse sortir de la division du travail, des rapports marchands, de la monnaie, etc. En dépit de toutes les utopies monétaires, des utopies amonétaires que vous voyez fleurir partout. Je n'arrive pas à le voir à vue humaine. Alors, on pourra me dire, et je l'accepterai volontiers, que c'est une limitation qui est inhérente à mon entendement et à la débilité de mon esprit. Je pourrais l'accepter, à la condition qu'on me montre non seulement le cri de joie de « vivons sans monnaie et vivons hors des rapports marchands », mais une idée d'une société qui serait viable dans ces conditions-là. Et moi, si vous voulez, ça m'intéresserait beaucoup. Hein. Je cherche autour de moi le Marx du 21e siècle. Et je ne le trouve pas. C'est ça qui m'embête terriblement. Donc, rapport monétaire-marchand, je pense qu'on va rester dedans, hélas, pour encore un grand moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que là où il y a vraiment de l'espoir contemporain, me semble-t-il, c'est pour le rapport salarial. Parce que c'est là qu'il y a quand même quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. C'est que on a une conjoncture idéologique qui est globalement nous extraordinairement adverse et qu'on pourrait résumer par un seul mot, individualisme. Chacun pour soi, les choses collectives n'ont plus la cote. Mais dans cet ensemble idéologique de l'individualisme, il y a un truc tout de même qui nous fournit une sacrée belle prise, et c'est l'idée de l'égalité des hommes en dignité. Et alors là, jamais idée n'a été autant répétée et autant bafouée dans la pratique. Y compris dans la sphère politique qui prétend en donner l'application. Mais alors dans la sphère économique, c'est absolument incroyable. Donc il y a une opportunité pour faire entendre dans la société que le rapport salarial en tant qu'il est un rapport hiérarchique, que ce rapport salarial est attentatoire au principe de l'égalité des hommes en dignité. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut faire fond. C'est là-dessus qu'il faut faire fond pour affirmer que les rapports dans l'entreprise sont médiévaux et que par conséquent, il faut les dépasser. Les dépasser dans quelle direction? Dans la direction qui affirme que les producteurs associés sont collectivement responsables de leur destin commun. Et donc une voie de dépassement du capitalisme me semble envisageable, je veux dire pensable d'ores et déjà, je veux dire, dès aujourd'hui, ne me semble pouvoir aller très rapidement que dans cette direction, celle d'un projet d'autogestion radicale.
Ça fait des années qu'on n'a pas parlé comme ça.
Sans blague. Il faudrait franchement s'y réhabituer.
Non, mais c'est vrai. Je crois que s'il y a un avantage ou un intérêt à cette crise, c'est qu'on... D'abord, ce mot capitalisme est revenu il y a quelques semaines, hein, tout au plus quelques mois, et toutes les idées qu'on remue là, ça fait des années qu'on n'y a pas touché, ça roupillait dans un coin, c'était en voie de disparition, et ça ressuscite. Grâce à vous, merci, professeur Lordon.
Vous êtes bien bon.
Quand on achète des actions, il faut croire en la nature humaine, croire dans le capitalisme, dans son pays, and in future prosperity in general.
Et dans la prospérité à venir.
So far, nothing
jusqu'à aujourd'hui
has been strong enough
rien
to shake
n'a jamais
my
ébranlé ma foi.
Voilà, sinon vous avez dans le Figaro Magazine un dialogue palpitant, un face-à-face palpitant entre Jean-Marc Sylvestre et Alain Madelin. Merci à tous, merci au professeur Lordon, je rappelle le titre de son bouquin, Jusqu'à quand, pour en finir avec les crises financières aux éditions Raison d'agir. C'était une émission habillée et préparée et traduite aussi pour les traductions, c'est Renaud Lambert. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire vos commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, et là aussi les commentaires sont attendus. À la technique aujourd'hui, j'ai pas les noms de nos camarades techniciens, c'est Coy Nguyen et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, elle est pas là, c'est pour ça qu'on n'a pas le nom des copains techniciens. Et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.